Bonjour. Je vous remercie pour votre communication. Donc, je me présente, je suis Brahim Mahdid, je suis journaliste et membre d'Amnesty International Algérie. Donc, en parlant un peu de l'Algérie, en fait, en général, les questions des droits de l'homme n'intéressent pas beaucoup les journaux en Algérie. Sur le plan interne, parfois, mais sauf certains journaux pseudo-indépendants, pour ne pas. Pour ce qui est de l'EPU, c'est encore pire, donc ça n'intéresse presque personne. C'est une réalité amère, mais bon, c'est ça. Le passage de l'Algérie au mois de mai n'a suscité qu'un article, je crois, d'un journal gouvernemental, donc comme quoi l'Algérie est passée, tout ça, blabla. Et pour ce qui est des recommandations, il y a un journal aussi qui a repris que l'Algérie a accepté telle ou telle recommandation. Donc c'est vraiment très difficile de séduire les rédactions, même si un journaliste vraiment sent le sujet et il veut le faire, mais comme ce n'est vraiment pas lui qui décide, donc c'est vraiment très difficile de faire. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que vous préconisez justement pour mieux attirer et plutôt convaincre son rédacteur en chef, par exemple, de publier tel ou tel sujet, en sachant que la plupart des journaux en Algérie ne sont pas indépendants?
Voilà, il y a ce problème qui se présente en Algérie, mais je pense dans beaucoup de pays, c'est justement l'indépendance des journaux et la question des droits de l'homme, du coup, devient le point, la question la plus sensible. Et c'est quand on m'a demandé de venir présenter cette thématique ici aujourd'hui, c'est la première question que j'ai posée. J'ai dit, mais d'où viennent les personnes qui seront là? Parce que je peux présenter ce que je viens de faire. Mais ce que je viens de dire ne joue pas du tout dans des pays où la presse n'est pas libre. Et je connais bien la situation de l'Algérie, je connais la situation d'autres pays, je connais le Vietnam, le Cambodge. Je veux dire, je connais bien les journalistes là-bas. Ils n'ont pas du tout envie de parler de droits de l'homme parce que c'est dangereux pour eux. Voilà. Et ça, malheureusement, tant que le pays n'a pas un minimum de liberté, je ne vois pas comment on peut faire, honnêtement, personnellement. À part faire parler de ces questions dans les journaux à l'étranger. Voilà. Voilà. Et l'Algérie, on en parle, par exemple, en Suisse, on en parle en France. Moi, j'aime bien écrire sur l'Algérie. J'ai déjà écrit pas mal de sujets, notamment sur les questions des disparitions, par exemple. J'ai pas fait là à l'EPU parce que c'était peut-être pas pour moi, dans ma perception, pour une question de temps aussi, le moment le plus crucial, ce qui est sûrement un tort. Après, il y a une question de temps, etc. Mais pour des pays comme le vôtre, la Tunisie avant, etc., pour les ONG, c'est peut-être faire le lobbying à l'étranger qui peut aider, parce qu'à l'intérieur...
Hello, my name is Jane Lawson. I come from International Media Support. I have some comments, but I also have some questions. First of all, we are here, we're a group of three working together on support to independent media and reform of media legislation in countries where the media are under pressure. We think that the media itself is a human rights topic. So it's not only a means, it's also a subject. So I have some questions in regards to that. If you know the important lobby groups here in Geneva or some organizations working for media freedom and to put it on the agenda, because we would very much like to get in touch with those. Another comment I have is, or this is actually just sharing with the rest of you what we have learned from our experiences in hostile societies and more authoritarian societies, are to apply alternative strategies where we cannot directly work with so-called free media because they simply hardly exist, or the ones that are left are so pressurized, we tend to see that there are movements within civil society of media NGOs where we move more from a direct journalistic focus into freedom of expression NGOs. And there you can actually benefit from groupings who today are becoming more and more savvy in utilization of social media, even underground media, dissemination of CD-ROMs and USBs with materials, combined with offline meetings. Often people tend to think that as long as you put it online, it will work. It's not necessarily so. The offline goes very well with the online. So developing strategies with the civil society to disseminate information on topics related to human rights can actually be done in parallel to working with mass media. Of course, when we move into countries where the freedom of the press is more in place, there are other tactics that you can apply for getting the mass media interested. My lesson learned is that if the media has its stake in it themselves, if you can actually talk about human rights where you tell the journalists that their own situation is part of human rights, then sometimes that can get them more interested. Mm-hmm. So there are several tactics on how to do this, but look out for the people who are working for freedom of expression in your countries and do consult them with your issues and maybe invite them into the coalition. Because what we've been talking about the past couple of days, I think the media as such have not been mentioned very much apart from a medium to express whatever issue you burn for, but they are themselves also in that equation. And if you can put them into the equation and the coalition, where there can also be a recommendation on non-state media, together with children's rights and women's rights and what have we, that maybe is useful, because then you have some very strong people in the coalition formed at the national level, which will also propose recommendations to the UPR. Thank you.
Vous avez parfaitement raison, et justement peut-être j'en profite pour dire qu'il y a d'autres moyens que les médias de se faire entendre. Il y a différents moyens dont Madame a parlé. Il y a aussi des individus ou des groupes qui diffusent sur YouTube aussi, Internet. Je prends l'exemple de certains Chinois. Qui ont sillonné comme ça le pays, il y a eu tout un reportage sur eux, qui sillonnent le pays et puis qui font parler les paysans ou les gens dont on exproprie les terres, et puis qui diffusent ça sur YouTube. Et puis il y a eu un Chinois qui a pu comme ça, simplement comme ça, faire entendre la voix de tout un village qui a pu avoir gain de cause finalement en Chine même. Donc Il y a plein de moyens qui sont des moyens pas forcément via les médias, parce que c'est vrai que dans un pays où la presse n'a pas de liberté d'expression, il faut trouver d'autres moyens. Et la presse, les médias font partie des brimés en matière de liberté d'expression. C'est tout à fait juste. Il y a aussi des fois les termes eux-mêmes peuvent bloquer, et on peut utiliser d'autres termes pour dire la même chose. Je pense notamment à cette expérience en Chine, par exemple. En Chine et dans beaucoup de pays, vous parlez de droits de l'homme, droits, etc. C'est sûr que les portes sont fermées immédiatement. Les deux personnes dont j'ai vu le reportage qui ont comme ça finalement travailler à la réappropriation de droits de certains paysans, c'est du travail de droits de l'homme, mais à aucun moment ils ont utilisé ce terme-là. Donc il y a la terminologie peut jouer un rôle aussi.
Okay. Thank you very much for your presentation. I'm particularly discussing a situation where media doesn't much respond to the human rights abuses and issues taken up by the human rights community. The situation like we have in Pakistan, you know, when we talk about human rights and human rights related issues, we do not get a lot of support because we have a very active media, but that is quite proactive towards the policies of the state, and non-state actors, those who are anti-human rights, basically. So in that case, the journalists or the media groups, so those who try to take up issues of human rights, either they are, you know, not good guys, threatened, and, you know, there has been a lot of killings in Pakistan of the journalists. And same, it's with the human rights defenders, human rights community, those who take up the issues of, you know, human rights violations and related issues. We have so much, you know, sensitive issues in Pakistan, issues related to religious extremism and religious intolerance in the country, which is directly affecting the marginalized groups. You must have heard the, you know, story of Malala and so much attacks on religious minorities in the country. So I just want to have your view on, you know, as a media person, what do you suggest could be the, you know, best practices or policies or strategies, you know, to get more space in the media?
In the media, in the Pakistanis media.
Yeah. I mean, in any situation like my country.
As I told your Algerian friend, I don't have an answer, frankly, about having more space in the media, because as in Pakistan, I know about the situation. I don't know how you could, but you could have different way of having space for human rights organizations. And as we said, for example, on internet, for example, the story of Malala, it's all over the world, you know. Every media know, and the foreign medias wrote a lot about her, because we got information through internet, for example. And this is an important way of diffusing the informations. Internet, emails, Facebook, whatever, all the new way of communications. Maybe the media as a traditional form is also dying, you know. So I'm not sure we can talk only about media like this. It's one way, but now you have so many other ways, which and people take risk also. So it has to be included in the question of information, in my opinion. I don't know if it's okay as an answer.
Je vais peut-être juste ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question du Pakistan, parce qu'il y a un point qui est important dans les stratégies, par exemple au moment où une information peut sortir et va plutôt être répercutée par les médias internationaux que par les médias locaux. Ce qui est intéressant dans l'affaire de Malala que tu mentionnais, c'est qu'en tout cas, tel que ça a été répercuté chez nous, on a notamment beaucoup parlé du fait que ça avait choqué au Pakistan et que la société civile pakistanaise était mobilisée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était assez important, parce qu'un des problèmes que nous avons dans la communication internationale qu'on peut utiliser, c'est qu'ensuite, ça se retourne contre nous, parce que l'affaire devient une affaire internationale contre l'État, et en fait, du coup, on renforce les mécanismes de défense nationaux. Et très souvent, on oublie du coup les acteurs. C'est un des problèmes que l'on a, c'est que les organisations internationales, après on va dire, ah ben c'est grâce à Human Rights Watch, c'est grâce à Amnesty et tout. Puis en fait, c'est pas vrai. Amnesty, Human Rights Watch, c'est la dernière partie juste avant qu'on connaisse l'info, mais tout le reste de la chaîne de l'information et des risques, ils ont été pris par des acteurs de terrain qui eux-mêmes sont véritablement engagés. Il y a un débat dans le pays, il y a une société civile dans le pays et tout et tout. Et ça, c'est un problème qu'on a de façon récurrente. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'affaire de Malala, telle qu'elle a été diffusée, c'est qu'on a toujours dit, et au Pakistan, les gens protestent, ne sont pas contents, etc., etc. J'ai dit, tiens, là au moins on montre, je ne sais pas à quel point ça reflétait la réalité, complète, mais au moins on montrait ce qui là fait partie de la réalité, c'est qu'il y a des gens actifs au Pakistan, et dont tu es un exemple éminent, et qu'on a tendance à oublier. Donc si je le dis, c'est-à-dire que quand on utilise des médias internationaux, comme tu le disais, pour des situations où on peut mal utiliser ce qui se passe ici, on a un travail à faire de part et d'autre d'ailleurs, hein, vous et nous, quand on est ensemble sur une action de ce genre, de toujours rappeler la mobilisation importante qui est faite par la société civile. Même chose quand tu as donné l'exemple sur la Chine, c'est toujours extrêmement important. Et là, on doit changer certaines manières de communiquer que l'on a, nous, du côté des ONG internationales, parce que sinon, on se met à cacher la réalité du terrain. Et en l'occurrence, pour une fois, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Alors, il y avait une main qui s'était levée. Ah, pardon, ici, et puis ensuite, on va venir là, puisque le micro est juste ici. Il va venir ici, mais ensuite, on va le faire. Tout le monde pourra poser des questions. Après, on prendra plusieurs questions pour s'assurer que tout le monde ait la parole.
I just want to share with you a very good resource for all of you. This is basically a hub. They're based in the UK, but they're called Tactical Technology Collective, tacticaltech.org. And they work with basically educating human rights defenders in how to use all kinds of technologies and social media and other forms of media. And they work with turning information into action. So they, you know, support info activism. They have toolkits on how to visualize information. They also have toolkits for secure communications, which is very important in what we do. And I strongly recommend you to go there. It's very pedagogical what they have online. They have videos, toolkits, etc. And they are also available in multiple languages. So tacticaltech.org. It's a very good organization to know about.
Il y avait deux questions, donc une ici, puis après la suivante. Je suis pas sûr que tout le monde puisse poser des questions avant qu'on finisse. Je suis pas sûr que tout le monde puisse poser des questions.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Taras, je suis ukrainien. Je ne parle beaucoup français, so I switch to English. I work for NGO Media Law Institute, and I want to ask you the question about influence. You mentioned that you are trying to influence public, but what about influence your government? Do you have a feeling that press in Switzerland can influence your government about considering periodic considering the review or about recommendations? And even more difficult question, do you consider that press and media in Geneva can influence foreign delegations that are coming to Geneva to consider human rights issues? Thanks.
Bonjour, c'est Amina du Maroc. Alors, dans les pays arabes où on sait que les médias sont toujours sous le collimateur, je ne peux pas m'empêcher, ceci est juste un constat, ce n'est pas une question, je ne peux pas m'empêcher de susciter le rôle des réseaux sociaux, le rôle qu'ils ont joué dans le printemps arabe et qui a débuté en Tunisie et qui a eu des répercussions très importantes dans le monde arabe. Donc là, ce n'est pas les médias officiels qui ont motivé ça, mais c'est surtout les réseaux sociaux qui ont accompagné ces mouvements et qui ont fait qu'ils ont abouti dans quelques pays.
D'abord répondre à ces deux questions, puis après on... Vas-y.
Alors juste, les rôles des réseaux sociaux, c'est exactement effectivement ce qu'on disait. Et je suis de plus en plus convaincue que maintenant, on doit être moins axé, les ONG, aux médias seulement, surtout vu dans un certain nombre de pays, l'absence de liberté et puis d'expression qu'ils puissent avoir, autant utiliser tous les autres moyens, on en a parlé. Est-ce que la presse, ce qu'on écrit dans les journaux, influence le gouvernement suisse et puis les délégations en général? Moi, je dirais, je pense que oui. Évidemment, plus le journal est connu et important, plus ça a un impact, ça les fâche, ça les... Nous, on a souvent, pour les questions de conseil de droits de l'homme, on a publié dans Le Temps, Et c'est sûr que certains articles qu'on a publiés, alors ça ne va pas faire changer radicalement les choses, mais ils ne sont pas à l'aise. Certains, si on dénonce quelque chose, je me souviens, il y a quelques années, on a pas mal dénoncé de magouilles au niveau du Conseil des droits de l'homme à propos de l'Ouzbékistan et de l'Iran. Ils ont réussi à faire passer des dossiers, à les faire clore, etc. Et on a pu avoir les documents, avoir les informations, sortir des sujets. Ça ne va pas faire que le dossier redevient officiel, mais ça dérange, ça c'est sûr. Moi j'y crois, sinon je ne ferais pas ce métier. Aussi bien le gouvernement suisse, s'il y a quelque chose qui est écrit dessus, et en plus si c'est relayé par différents journaux. Et je pense que les délégations étrangères ne sont pas indifférentes à ce qui s'écrit, effectivement.
Juste compléter et en confirmant ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs débats qui ont eu lieu au Conseil des droits de l'homme où on a explicitement mentionné tel ou tel article du journal Le Temps. Alors, c'est pas à chaque session du Conseil, hein, c'est une fois tous les deux ans, quelque chose de ce genre. Mais ça montre que c'est le journal, parce que c'est le journal local, c'est lui. Si on était à New York, ce serait le New York Times. Donc, c'est un peu le même rôle. Et effectivement, des sujets, simplement, parce que ça, ce n'était pas des remises en cause, comme pour l'Ouzbékistan, comme tu le mentionnais, mais ça fait référence. Alors, des fois, ça donne une tendance, et alors, tel pays va s'opposer à la tendance telle qu'elle est reflétée dans l'article et autres. Donc, il a un impact. Alors, dans le changement de décision, ce n'est pas évident, mais en tout cas, ça va animer le débat. Et ça évite que certaines choses... ça évite, par exemple, que le Conseil ait l'impression qu'il travaille en vase clos. Alors, ça, c'est certain.
Alors, je donne
ça a un impact interne dans la discussion.
Un autre exemple qui avait eu lieu justement dans la première volée des EPU, c'est-à-dire qu'il y avait un système qui faisait que le premier gouvernement inscrit était le premier qui pouvait s'exprimer. Donc, certains pays faisaient en sorte que tous leurs pays amis s'inscrivent en premier. Il n'y avait plus de place pour les gouvernements qui puissent critiquer. Et la Tunisie avait fait mieux encore. Donc, c'était la Tunisie de Ben Ali. Ils avaient, les deux semaines avant leur truc, appelé toutes les délégations, notamment africaines, etc., pour les acheter. Et nous, on a pu avoir l'information de sources sûres, parce que, évidemment, si vous donnez une mauvaise information là-dessus, ça peut très mal tourner pour vous. Vous finissez au tribunal, mais on était sûr de notre info. On a sorti ça dans les journaux. Ben, vous pouvez imaginer que la Tunisie était mal à l'aise. Et ils n'ont rien pu faire contre nous parce que l'information était juste.
Voilà. Abdoulaye Sow, Mauritanie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est plutôt un souhait. C'est comment renforcer les capacités des journalistes africains. En réalité, le problème, ce n'est pas simplement une question de liberté. Quand les sociétés africaines ont commencé à se démocratiser à partir des années 92, avant cela, la seule référence était Jeune Afrique. C'était le seul journal qui donnait les informations. Donc, il n'y avait pas la liberté de la parole. Elle était confisquée. Quand nous sommes rentrés dans nos démocraties, les journalistes parlaient plutôt des faits divers et des enjeux de stratégie d'accaparement du pouvoir politique. Donc beaucoup d'entre eux ne parlent pas des droits humains parce que c'est dangereux, mais c'est parce seulement ils ne connaissent pas. Quand on a formé les journalistes mauritaniens sur les stratégies de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, ils ont mis dans les journaux, on a fait du lobbying et une loi a été votée. Donc il y a des espaces de liberté où on peut se mouvoir. Mais la grande question, c'est que les journalistes eux-mêmes ne sont pas promus souvent dans la plupart des pays africains pour traiter de ces questions. Et il y a aussi une nouvelle perversion qui est devenue très dangereuse dans certains pays africains. Les journalistes, pour couvrir quelque chose, il faut qu'on les paye. Ouais. S'il y a des gens qui ont fait des colloques comme moi, j'en organise souvent en Mauritanie, j'ai un budget dans lequel je suis obligé de faire venir des journalistes, de leur donner des perdions, si je veux que mon colloque ou le sujet traité passe numéro un sur le truc. Donc moi, ce que j'aurais souhaité surtout, c'est voir comment, dans le cadre de l'EPU, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, comment on peut former les journalistes africains pour leur donner cette capacité. Je vous remercie.
My name is Wang Wanyanghai. I'm from a health organization in China. So just when we participating in this in a workshop, some of the participants of the workshop at the office were attacked by police. So this week, you know, the Chinese police visited my our office in Guangzhou. So they took our staff in a very late midnight dinner, and forced my colleague to resign from our organization. So the police action actually caused two new young staff resign this week. So probably I heard some other participants in the office were attacked by the government. So I think probably you can our media friends can pay attention on these issues. Yeah.
On va donner la réponse, puis après j'ai encore deux questions.
Pour répondre au monsieur Mauritanien, c'est bien ça? Oui. Vous êtes de Mauritanie. Comment intéresser les médias? Parce qu'effectivement, il y a quand même des pays où il y a des espaces de liberté. Je pense que les ONG, on revient à ce qui a été dit au début, plus vous leur présentez, vous leur faites le lien de la concrétisation de ce qui se discute au sein de l'EPU et de l'impact sur le terrain, qui est quand même le travail de l'ONG de faire ça, de montrer en quoi les discussions techniques ont un lien, mieux vous ferez le lien, plus le journaliste entrera en matière sur le sujet. Après, c'est qu'il faut qu'il sente qu'il y ait quelque chose de concret là-dessus. Et c'est vrai que les discussions purement onisiennes de l'EPU, le concret, on ne le voit pas, ça ne saute pas aux yeux, quoi. Donc il faut faire tout un travail et il faut juste, à mon avis, le journaliste, il faut juste mettre l'hameçon pour que, après le travail, il le fera. Mais il faut qu'il y ait l'hameçon qui lui donne envie de le faire. Le cas que vous dites, je veux dire, la plupart des ONG qui sont ici sont vous êtes des défenseurs de droits de l'homme, et les défenseurs de droits de l'homme sont les personnes les plus exposées dans un pays non démocratique, c'est clair, et vous prenez des risques, et malheureusement, il y a des conséquences de ce genre qui se passent dans votre cas, mais je ne crois pas qu'il y avait une question en particulier.
Tu vas notamment couvrir, voir si ce que tu peux couvrir, c'est de ton côté.
Ah, alors, effectivement, avertir les médias si ce n'est pas possible dans le pays, à l'étranger, pour voir si quelque chose peut être écrit dessus. Ça a toujours un impact, parce que ça ne plaît pas au gouvernement ni chinois ni pakistanais de voir un article dans un journal français, suisse, anglais, américain sur... la question.
On va prendre les deux. Il y avait encore deux autres questions. Ici, et puis ici d'abord.
Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Tima Dakim. Je suis une jeune du KKF, c'est le Khmer Krom Fédération. On est une population, une minorité ethnique qui vit dans le sud du Vietnam. Et notre problème, c'est juste que depuis 2009, j'étais à Tra Vinh, une ville de Vietnam, en 2010. Et on voulait avoir accès aux réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux ont été censurés à partir de 2009. Donc déjà, il n'y a pas de possibilité de faire passer cette information. Donc on est filtré. On n'a pas la possibilité du tout de dire ce qui se passe. Les Skype, etc., c'est aussi dur de pouvoir avoir une possibilité de pouvoir discuter avec les personnes qui sont là-bas. Et je me rappelle une petite anecdote, c'est qu'on avait essayé d'obtenir internet pour un temple, parce que vous savez que les bouddhistes sont un peu oppressés par le gouvernement, et ils ne voulaient pas nous laisser avoir accès à internet dans notre contrée, parce qu'ils savaient que, sachant qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir des droits, qu'importe que le Vietnam recevait des subventions de l'Australie, de l'Allemagne, ils disaient toujours on n'a pas de fonds pour faire des infrastructures et vous avoir donné accès à l'éducation, etc. Et donc on a essayé, la presse, il n'y en a pas, on a essayé d'avoir des informations par Facebook, il n'y a rien. Donc la question est, comment, même si on sait que nous-mêmes, on travaille, on essaye de contourner le pays pour pouvoir faire passer cette information, comment est-ce qu'on peut réellement agir et faire quelque chose dans le pays, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on va dans le pays, soit on est arrêté, le Vietnam trouve toujours quelque chose pour dire vous avez fait ci, vous avez fait quelque chose contre l'État. Enfin, ils trouvent toujours un prétexte pour nous arrêter. Et on essaye forcément d'avoir une solution pour pouvoir faire avancer les choses. Mais quand je suis allée au CERD, etc., on parle directement avec le Vietnam, on leur pose des questions, et ils nous disent toujours ce n'est pas ça, c'est ni ça, ni. Enfin, voilà. Et donc, on n'a aucune possibilité d'avoir un vrai dialogue avec le gouvernement, et on essaye toujours de trouver des nouvelles innovations, solutions pour parler avec le Vietnam. Mais à chaque fois, c'est un dialogue de sourds, muets, et on n'arrive vraiment pas à avancer.
Alors oui, les Khmer Krom, je connais bien la situation, elle est dramatique, parce que vous êtes ni au Vietnam ni au Cambodge, vous êtes apatride des deux côtés, et en plus installé dans un pays, le Vietnam, où il y a une réelle censure d'Internet, d'un tas de choses. Et comment ben, je crois que vous le faites très bien, hein. Vous avez tout un réseau à l'étranger, vous faites entendre. Moi, j'ai déjà écrit des articles sur les Khmer Krom, mais c'est vrai que voilà, c'est le drame des minorités peu connues, c'est qu'on écrit une fois, deux fois, et après, on ne peut pas à chaque fois écrire la même chose, mais je crois que vous faites des grandes manifestations devant l'ONU, devant le Palais des droits de l'homme. J'ai l'impression que vous faites au mieux que vous pouvez. Je vois pas comment vous pourriez faire mieux.
Mais en fait, le souci, c'est qu'importe qu'on fasse ça, le Vietnam ne veut pas quand même nous entendre. Oui. Ils ont fait des résolutions, ils ont ratifié, mais il n'y a rien qui a été fait. Oui. Donc, c'est toujours le problème. C'est même si on fait tout pour y arriver, même si on donne notre maximum, et que ça fait depuis quelques années qu'on fait ça, rien n'est toujours fait. Enfin, on sait que ça va durer longtemps. Et même si on fait ce qu'on fait, il n'y a aucun impact au niveau du pays. Donc on est vraiment bloqué. Même si on fait beaucoup de choses, on est bloqué. Et on n'a vraiment aucun impact réel dans le pays.
Sachant juste que ce problème n'est pas lié qu'au Khmer Krom, hein, au Vietnam. C'est vraiment un problème pour les chrétiens au Vietnam, pour toutes les minorités. Donc...
Je pense peut-être il y a dans les stratégies au niveau international et autres dont on avait parlé, je pense qu'un sujet de ce genre dans les médias allemands par rapport à l'argent que l'Allemagne donne pour justement pour l'aide au développement au Vietnam, ça peut avoir un véritable impact. C'est-à-dire que parce qu'après, de nouveau, si on va uniquement discuter avec les autorités, ça peut aussi avoir un impact, les autorités allemandes. Mais si ensuite il y a un débat public, ça a une affaire qui remonte très souvent au Parlement, ça a toujours un impact de ce genre. Et ça a un impact indirect, mais ça a un impact parce qu'après les Allemands doivent rendre des comptes sur comment ils utilisent l'argent, ils doivent rendre des comptes à leur propre Parlement. Donc du coup, ils sont obligés de négocier et d'exiger des choses du côté du Vietnam. Et ça peut avoir un effet.
Mais
pour faire progresser un peu, ça ne va pas résoudre la situation, on est d'accord, hein, mais ça permet éventuellement de progresser et par exemple d'exiger qu'il y ait, ça peut être une des choses que vous pouvez demander très clairement, d'exiger d'avoir des rencontres directes entre les minorités et les autorités, pousser un dialogue. Il y a des dialogues comme ça bilatéraux qui se font entre les États, mais de nouveau, c'est là qu'il y a un rapport à faire avec la presse, c'est-à-dire que quand on laisse ces dialogues bilatéraux, style dialogue Suisse-Chine ou des choses de ce genre, on les laisse les faire entre diplomates, ben ils arrangent leurs petites affaires et ça ne fait pas avancer la cause. À partir du moment où on arrive à médiatiser ce genre de discussion, ça les force à devoir rendre compte et ça peut avoir un impact direct parce que des deux côtés, ils ont des intérêts à ce que les choses se fassent. Voilà. C'est une indication. On va peut-être prendre la toute dernière question qui était ici, parce qu'ensuite, Carole doit nous quitter. Elle a justement quelque chose. Alors, il y a deux questions. Ce sont les deux dernières questions.
I just have... I'm sorry, I'm turning into like a sharing mechanism here, but I would like to touch upon some of the issues that have been raised, and I would like to recommend that you try to get hold of investigative reporters in your region or in your country. IMS has throughout the past 4 or 5 years worked with nurturing and developing networks of investigative reporters. So today there is a very strong network in the MENA, Middle East, Northern African region. It's called ARIJ.net, ARIJ.net. It has activities in Morocco, Tunisia, Libya, Jordan, even into Iraq. So Arish is a very strong network in the Middle East. We have a network also in Western Africa covering Burkina Faso, Ivory Coast, Benin and Togo. It's under PAIR, and which again is collaborating with FAIR, which is the FAIRReporters.net. That is a large African network for investigative reporters. You can go to i/scoop.org and you can enter networks covering also Eastern Europe, etc. Just picking up on why it would be important for you guys to and ourselves to continue working with this is that investigative reporters, if you can actually sell your case to them, if you can go into alliances with them, you can, if you're lucky, that there's also a donor funding them. There can be documentary films produced, there can be websites produced, there can be articles produced. And exactly in relation to the Khmer Krom, I actually watched a film on the Global Conference on Investigative Journalists on exactly that topic, and I was not aware of that topic. I know that documentary film has been used very strategically in raising awareness. So I just want to recommend you to link up to investigative reporters and try to explain your case. Thank you.
Thank you very much for the discussion that we have heard. I think what has already been discussed about the media is true, and the difficulties are also found everywhere. But I don't have a question. I have a comment of what have been said. If we consider that this meeting that we are in, I mean, it has resulted of the technology of media. We have interacted with each other through the internet. So those difficulties will remain as they are. And we have other alternatives to let our voices heard. The internet, the websites, the Facebook. So through these means, we can keep in touch. We can send our messages. We can also let the voices heard from any part of the world. So traditional media will remain as it is, controlled by the government. But we can go outside the traditional media to the technology of media through the online. Thank you.
Merci. Ce que vous venez de dire me fait penser à quelque chose que j'aimerais quand même relever. Quand des ONG de pays du Sud font entendre leur voix pour des journalistes, mettons, d'Occident, un des soucis de journalistes, et je pense que ce n'est pas forcément juste, mais c'est comme ça, c'est de savoir si cette ONG est crédible ou pas. C'est aussi un problème. Et on ne connaît pas forcément toutes ces... Et comment est-ce qu'on fait, nous, d'une manière assez rapide, pour savoir si c'est crédible ou pas? On regarde d'abord si l'ONG est reliée à ces grandes ONG internationales, Amnesty, Human Rights Watch, FIDH, etc. Et si elle ne l'est pas, ben déjà, on se renseigne. Ça, je vous le dis pour que vous le sachiez. Et si vous voulez que ça aille plus vite, il faut penser à cette crédibilité, parce que vous êtes peut-être crédible chez vous, mais de loin, on ne sait pas. Et on n'a pas forcément, justement, les liens locaux pour le savoir. Donc ça, c'est... J'y pense maintenant... Ça aide beaucoup, ça gagne du temps aux journalistes et ça permet aux journalistes, c'est vrai que prenons l'histoire de Malala ou autre histoire, le journaliste il voit une ONG inconnue qui lui envoie une information, ben on ne sait pas, hein, regardez la Syrie, on ne sait pas si ça vient des islamistes, si ça vient du gouvernement, il y a des informations de tous les côtés. Donc ce point est important. Se faire couvrir par une grande ONG pour dire aux journalistes là-bas loin, vous en faites pas, on est crédible. Je pense que ça, c'est quand même important à relever. Voilà.
Très bien, avec ça, ce sera le mot de la fin. Je crois que c'est une très, très bonne conclusion. Je crois qu'on peut chaleureusement remercier Carole pour les échanges qu'on a pu avoir sur cette question qui nous intéresse au premier chef, hein, sur ces questions des médias. Donc encore une fois, merci beaucoup Carole pour ce dialogue.